Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, avec Corinne, depuis quelques années, on est embarqué dans une aventure qui nous amène à explorer les espaces d'intermétiers en contexte d'école ou de société inclusive. Et ça va m'amener peut-être à titre d'introduction à présenter en fait la raison de ce lien de notre point de vue entre l'école inclusive et l'intermétier. Le premier constat, le fait qu'on a besoin, quand on travaille sur l'école inclusive, de passer d'une identification des besoins des élèves aux besoins des enseignants et des professionnels. Comment dire, ce glissement, ce déplacement n'est pas anodin. Dans de très nombreux contextes, on a quand même l'impression que il suffit d'identifier les besoins des élèves pour y répondre. L'analyse du travail et les travaux qui ont été menés dans ce domaine montre que identifier les besoins des élèves, c'est important, mais ce dont les professionnels ont besoin pour répondre aux besoins des élèves, c'est tout aussi important. Et la souffrance que l'on constate sur de très nombreux terrains éducatifs au sens large, scolaire, mais aussi périscolaire ou de l'éducation formelle ou informelle, montre bien que c'est pas que les gens ne veulent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas identifié les besoins des élèves ou des enfants qui ont pu être très bien décrit par de très nombreux travaux qui font état de limitations, notamment. Ces besoins, en contexte scolaire, nécessitent d'être reconstruits en termes de besoins professionnels des enseignants. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le contexte le contexte qui nous rassemble en France est un contexte qui fait que les ressources données, notamment par la loi de 2005, sont des ressources qui sont massivement orientées vers la compensation. En d'autres termes, on propose des ressources physique, matériel, mais surtout humaine, je pense aux AESH, pour aider les enfants à être scolarisés en milieu ordinaire. Un contexte qui amène à penser les réponses et les adaptations en termes de compensation. Les travaux de recherche qui sont menés dans le domaine montre que cette solution a des limites, qu'elle est liée en fait à un contexte historique de réponse en silo où l'on identifiait des besoins et on y répondait de manière spécifique, d'où des dispositifs et des AESH qui sont là pour accompagner des personnes dans des contextes très spécifiques, bien au-delà du handicap, on est bien d'accord. Tous les élèves que l'on nomme à besoins particuliers, et qui, pour le définir vite, on pourrait dire, sont à risque de ne pas suivre une scolarité ordinaire, si l'on ne met pas en place, des dispositifs, à même de les aider. Notre raisonnement avec Corinne nous amène à penser que, la bonne solution est de dépasser la demande des enseignants et des équipes éducatives de moyens compensatoires et de réfléchir avec eux à une transformation de l'école pour la rendre accessible. Un autre constat, c'est que les problématiques des élèves qui nous occupent ne sont pas que scolaires. Il y a des problématiques sociales, il y a des problématiques médicales, rééducatives. Et c'est un constat que tous ceux et celles qui sont au quotidien dans les écoles font depuis quelques années, on voit arriver dans l'école des professionnels du soin, de l'éducation spécialisée, de la rééducation, des psychologues, etc. Et la question qui se pose à nous, c'est comment travailler ensemble, comment construire des espaces de réponse qui permettent à chacun de faire son travail. D'où la problématique du travail collectif qu'on s'est posé depuis quelques années, dans un contexte où, évidemment, on entend par travail collectif et espace d'intermétier le travail des enseignants entre eux, mais aussi avec les professionnels enseignants spécialisés, AESH, etc., qui gravitent autour des enseignants, et au-delà, comme je le disais tout à l'heure, les professionnels qui accompagnent l'école dans sa transformation, ces professionnels qui vivent des évolutions, tout comme les enseignants, puisque finalement, eux aussi, depuis des décennies, ils travaillaient dans une logique massivement compensatoire. Mais quand on voit les professionnels travailler, on voit bien que la ligne d'horizon, elle est celle d'une école accessible où les enseignants font leur travail d'enseignant, mais créent des espaces d'intermétier à même de les aider à agir dans un contexte que je décrivais tout à l'heure où les besoins des élèves nécessitent des compétences bien au-delà de la capacité à enseigner dans un contexte à nouveau où au-delà des professionnels, il est bien évident qu'on associe les enfants. Je renvoie au travail de Serge Ebersole et Jean-Jacques Dutrot sur les espaces qui nous amènent à penser qu'au centre, il y a le projet et que l'enfant est lui aussi acteur de son projet
Mais donc,
et les
pour
familles.
reprendre la question du partenariat déjà, je vais rentrer dans le problème par l'étymologie de la notion de partenariat. Je ne sais pas si vous avez une idée de la date à laquelle le mot partenariat entre dans le dictionnaire, mais c'est effectivement un terme extrêmement récent. C'est seulement en 1987 que ça rentre dans le dictionnaire. Donc c'est un mot qui est nouveau et comme tous les mots nouveaux, ben ça devient un mot valise, c'est-à-dire que chacun y met un petit peu ce qu'il a envie d'en entendre. Donc les uns, c'est partenariat égale collaboration interinstitutionnelle, pour d'autres, partenariat égale accord financier, pour d'autres, partenariat égale action conjointe. Donc voilà, c'est le premier des malentendus, c'est qu'on est face à un mot valise où chacun met ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, l'idée de rentrer dans la notion par le suffixe aria, ça désigne déjà quelque chose, c'est l'organisation. Le mot aria signifie l'organisation. Donc, vous avez entrepreneuriat, actionnariat, partenariat, tout ça, c'est des termes qui sont arrivés à peu près en même temps et qui modélisaient cette question de l'organisation pour nous, évidemment, l'organisation du travail. Alors, si on y regarde un petit peu plus près dans la définition du dictionnaire, on a personne associée dans, et là, on a toute une liste d'associations possibles. Et ce que la présentation, la définition du dictionnaire apporte, hein, c'est le fait que le partenariat est extrêmement contextuel. On pourrait le présenter dans le contexte de l'insertion professionnelle, de l'éducation à la santé. La diversité des contextes est grande et dans le dictionnaire, donc, il est dit personne associée dans une relation sexuelle, dans un accord participatif, etc. Donc, en fait, ce que ça nous apporte comme élément de connaissance dans cette strate de la définition, c'est qu'on ne peut pas comprendre la question du travail collectif sans l'inscrire et l'ancrer dans le contexte dans lequel il se situe. Donc le contexte est au moins aussi important que l'action elle-même et donc c'est une invitation à bien interroger le contexte. Alors on nous dit vient de l'anglais partner, c'est pas vrai du tout, c'est en fait un vieux mot français qu'on trouve dans une lettre de Madame de Dudéfant au XVIIIe siècle hein, et qui signifie personne associée dans, et donc là, c'est propriétaire, indivis. Et donc, cette strate de la définition nous renvoie à la question de l'indivision. Alors, on peut être propriétaire en indivision avec des quotités extrêmement différentes du genre 10%, 90%. Et on peut être aussi propriétaire indivis à 50-50. Et généralement, les gens qui travaillent en partenariat ont dans la tête qu'il faut que chacun apporte dans la corbeille de la mariée à peu près la même quotité de force, d'intérêt, enfin, etc. Et ce que cette trappe de la définition nous amène, c'est qu'en fait, on ne travaille pas dans l'égalité, mais dans l'équité. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas l'égalité de quotité qui est importante, c'est l'équité, c'est-à-dire la place qu'on va donner à chacune des paroles en présence. C'est-à-dire que pour revendre le bien dans une propriété indivis, on doit avoir les signatures de chacun, y compris la signature de la plus petite quotité. Donc, la leçon à tirer de ce niveau de la définition de partenariat, c'est que même les plus petites voix engagées dans l'action commune doivent avoir une place, une légitimité et sont copartageants, co-responsables de la situation. Alors, si on va plus avant dans la définition, ça nous envoie au latin, et là, aux surprises, au vieux français d'abord et au latin ensuite, aux surprises, on a exactement l'inverse de ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que ce qui est mis en avant, ce n'est pas l'association, mais la division. En fait, dans la racine latine, partenariat signifie le partage du butin chez les voleurs. Donc, en fait, cette relation partenariale, c'est une relation paradoxale où on est à la fois associé et en même temps divisé, séparé. Et donc là, on a cette ambiguïté de la relation qui ressort dans la construction même de la notion. On travaille avec et en même temps contre les intérêts de l'autre. Et donc là, on est dans une relation forcément un peu compliquée. Et donc, vous voyez déjà, l'interrogation de l'étymologie du terme nous apporte déjà pas mal de connaissances. Donc, c'est une notion inscrite dans la systémie où on partage et en même temps, on divise les choses, et donc on est dans une ambiguïté relationnelle. Alors, je vais revenir maintenant à la définition plus scientifique, on va dire, qui a été donnée du partenariat. Je me situe vraiment du côté des sociologies qualitatives, va-t-on dire, donc Strauss, Calon, Latour, etc. Donc, dès le départ, en 1980 et quelque chose, on a commencé à se dire que finalement, on était face à ce que Crozier et Fidberg, autour de l'idée de système d'action concret. C'est-à-dire qu'on est dans l'action quand on est dans le partenariat. Et l'inconvénient d'être dans l'action, c'est que parfois, c'est traduit un peu de manière ordinaire derrière l'idée de « j'ai le nez dans le guidon », c'est-à-dire que l'action nous envahit et on a du mal à prendre de la distance. Et c'est là-dessus que je vais essayer de vous aider en vous apportant des outils et des gestes qui vous aident à interroger ces situations. Au départ, on a la résolution d'un problème commun, c'est-à-dire on a une situation qui résiste et c'est parce qu'on a une situation qui résiste qu'on va construire un collectif qui va essayer de répondre à cette situation. Mais si on n'avait pas cette résistance, ben vous savez, le partenariat, c'est énergivore et chronophage. On n'aurait certainement pas construit un collectif d'action si on n'avait pas eu cette résistance. Donc, au départ, il n'y a pas d'intérêt commun, il n'y a pas d'objectif commun, il y a même parfois des intérêts divergents. En fait, ce qui est en commun, c'est la résistance d'une situation et donc c'est la résolution d'un problème commun qui va engager le collectif dans un travail conjoint. Ce qui fonde cette construction collective, et on le reprendra tout à l'heure, c'est la question de la négociation. Alors, la négociation, je voudrais qu'on distingue à ce moment-là de la présentation la sous-traitance, c'est-à-dire je commande à quelqu'un de faire une part de mon travail, Ça, c'est pas du partenariat. Quand je vous disais tout à l'heure, mot valise, chacun y met ce qu'il a envie d'entendre. Bon, ben, beaucoup ont envie d'entendre sous-traitance. Ben non, le partenariat, c'est pas une sous-traitance. C'est pas non plus une délégation. C'est pas je donne pouvoir à l'autre de travailler en mon nom. Non, c'est en fait une co-construction. C'est un travail commun, c'est un travail conjoint, et donc cette négociation, elle va mettre en conflit. Mais en fait, quand on parle de conflit, on ne parle pas de conflit de personnes, on parle de conflit de code, on parle de conflit de réglementation. Alors, pour illustrer ce conflit de réglementation, je vous prendrai le secret professionnel. Hein. C'est un conflit de réglementation, c'est-à-dire que bah, nous, acteurs de l'éducation, on n'a pas accès au secret professionnel médical. Et ça engendre des tensions entre les partenaires. Et ces tensions, si elles ne sont pas traitées, eh bien, elles deviennent des conflits de personnes. Et donc, c'est une invitation à prendre en considération tout ce qui peut mettre en conflit dans la situation, conflit de code, conflit de réglementation, conflit de logique, conflit, donc, mais peu importe, mais en tout cas, traiter le conflit, c'est donc entrer dans une négociation et c'est cette négociation qui va permettre une co-construction. Alors, il y a deux grands obstacles à la situation partenariale, c'est la différence. C'est toujours très délicat d'avoir de traiter les différences d'approche, les différences de technique, les différences de langage. Donc, il y a toutes sortes de différences et on a toujours l'impression que l'autre comprend les choses comme nous les comprenons. Et puis, finalement, on se rend compte que, ben non, pas du tout. Chacun a sa façon de rentrer dans les termes, dans la terminologie, dans le sens, dans la question du sens, parce qu'on n'est pas positionné au même endroit. Donc, la différence, c'est un des obstacles du partenariat. Et la meilleure façon de le traiter, c'est de les accepter pour travailler dessus ensemble et les mettre au service de ce qu'on a envie de construire comme réponse aux problèmes communs que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a 2 minutes. La question du partenariat est posée aussi du côté de l'interactionnisme, c'est-à-dire qu'on va avoir des asymétries de relations qui vont venir embarrasser le traitement de ces différences. Percevoir ces différences, percevoir ces asymétries, et c'est ce que proposent les diapositives qui suivent. Différence de monde et différence d'univers, parce que chaque métier est inscrit dans un univers professionnel avec des symboles, avec une symbolique, avec une sémiotique particulière, avec des valeurs, avec des codes, avec des réglementations différentes, c'est ce que j'ai évoqué il y a 2 minutes et demie. Et donc là, on a des mondes qui vont se rencontrer et qui vont se métisser, mais ce métissage se fait dans la douleur, c'est évident. La meilleure façon de ne pas avoir trop mal, c'est de mettre les choses sur la table et de les discuter. Et cette rencontre des différences, hein, ça fait un double obstacle, hein, est inscrit dans des asymétries. Des asymétries de relations qui s'inscrivent parfois dans l'histoire hein, qui a organisé les relations entre les institutions. Par exemple, pour illustrer cette histoire d'asymétrie historiquement construite entre les institutions, on a des asymétries que l'on connaît bien, c'est-à-dire asymétrie médicale, sur le monde médical, sur le monde scolaire, sur le monde familial, sur l'enfant. Et chacune des strates s'impose à l'autre, et sans même s'en rendre compte, en fait. C'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, c'est d'une logique interne comment dire, qui s'impose à l'autre, à l'externe, et qui finalement embarrasse les fameuses négociations qu'on va devoir développer ensemble. On a aussi des asymétries qui s'instituent cette fois-ci dans les codes sociaux. Hein. Je voudrais blesser personne, et en particulier pas des messieurs, ni en plus des messieurs un peu avancés en âge. Mais il est bien clair qu'un vieux directeur au bord de la retraite, face à une jeune collègue débutante, hein, il va y avoir une asymétrie qui va forcément s'instituer entre eux, tout à fait, j'allais dire, naturellement. et qui va venir s'agréger aux asymétries précédentes qui existent déjà entre les institutions. Et donc, en fait, les différences vont être difficilement visibles déjà, difficilement traitables en raison de cette diversité d'asymétries. Vous avez d'autres asymétries qui s'instituent encore plus, comment dire, discrètement, c'est des asymétries d'usage. Par exemple, là, vous avez une cartographie de la manière dont des partenaires peuvent s'organiser autour d'une table avec, dans le cadre d'une ESS, donc d'une équipe de suivi de scolarité. Et donc là, vous avez tout le monde scolaire regroupé autour de la table face au monde médico-social qui est de l'autre côté de la table. Et vous voyez, j'ai bien dit face. C'est-à-dire que forcément, quand on a cette situation géographique, physique et matérielle d'organisation des échanges, on va avoir un affrontement quelque part, hein, et donc on va avoir une relation de confrontation et non pas une relation de coopération. Donc là, il y a intérêt à déjà penser l'organisation des échanges d'un point de vue cartographique qui permettent de contrebalancer les asymétries que je viens d'évoquer là. Donc, vous voyez bien que déjà, vous avez quelques petits gestes professionnels qui peuvent se glisser et vous aider à réorganiser la négociation, ne serait-ce que par une organisation géographique de la réunion. De même, on a eu mesuré au travers de travaux d'étudiants de master, hein, le temps de parole lors d'une ESS. Alors, absolument rien ne dit qu'une ESS doit tourner autour de 34 ou 35 minutes. Absolument rien. Aucun texte ne le dit. Et pourtant, il y a là un usage qui organise les ESS dans ce temps moyen, à peu près, de 34 minutes. Et vous voyez que sur 34 minutes, la parole qui est accordée aux parents ou aux jeunes est de 2 minutes 4. La toute petite voix que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'indivision et de la répartition des forces, où je disais qu'on n'avait pas besoin d'avoir une grosse quantité d'apports pour être, comment dire, à égalité dans le travail de négociation, et que même la toute petite voix avait sa légitimité, avait sa place, avait son rôle à jouer dans la négociation. Donc, vous voyez, en fait, ce que ça montre, tout ça, c'est que le partenariat est construit sur la différence. On doit travailler cette question de la différence qui met en conflit différents de logiques, de valeurs, de croyances, d'expertise, etc. Et que cette négociation de la différence s'inscrit dans des asymétries qui sont construites historiquement, des asymétries qui sont construites socialement, des asymétries qui sont construites professionnellement par la hiérarchie et l'organisation, l'organigramme de l'entreprise ou de l'organisation. Et là, vous voyez que la question de la négociation, elle devient compliquée, ce qui explique que les partenariats sont souvent chronophages et énergivores. Je continue et j'achève cette présentation des obstacles sur les asymétries qui, elles, s'instituent dans la relation partenariale elle-même. C'est-à-dire que finalement, quand vous faites travailler des partenaires ensemble, vous mettez en jeu ce qu'on appelle une dimension de monopole. La relation partenariale est faite donc de trois dimensions, une dimension de monopole, une dimension de concurrence et une dimension de coopération. Mais en général, on ne voit que la question de la complémentarité et de la coopération. Donc, dimension de monopole, eh bien, on retrouve cela derrière l'histoire du secret médical, c'est-à-dire que la réglementation elle-même dans lequel s'inscrit le travail conjoint, organise des monopoles que sont le secret professionnel ou, par exemple, l'évaluation de l'élève. Souvent, on a un univers médico-social qui dit, mais moi aussi, je suis capable d'évaluer l'enfant. Oui, d'évaluer l'enfant et ses difficultés, mais pas d'évaluer l'élève. Donc, l'évaluation de l'élève, c'est vraiment un monopole institutionnel de l'enseignant. Et puis, il y a ce que j'appelle les monopoles d'expertise, c'est-à-dire que ben, l'enseignant, il enseigne, le soignant, il soigne. Et donc là, on va avoir des monopoles donc réglementaires que j'ai évoqués, d'expertise qui vient du fait que ben, chacun a son expertise dans son propre métier. Et face à ça, vous avez la dimension de concurrence qui intervient parce que on intervient tous, on espère, au profit de cet enfant qui est là pour nous, enfin, et on essaye de travailler pour lui. Et donc, du coup, cette dimension de concurrence et de monopole vont s'affronter et vont travailler finalement l'interaction. Et donc, vous voyez, c'est pas le partenariat, c'est pas une relation lisse, comment dire, homogène. C'est un travail permanent qui, pour arriver à la question de la complémentarité, nécessite cette fameuse négociation sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Donc, en fait, on a là la différence qui travaille la relation partenariale, on a la question des conflits de code, d'univers, etc., qui travaille la relation partenariale. La relation partenariale elle-même a trois logiques qui s'interchoquent, la logique de monopole, la logique de concurrence, et qui finalement, on espère, deviennent une logique de complémentarité, mais cette logique de complémentarité n'existe que si on règle les questions de conflit qu'on a évoquées tout à l'heure et qui s'inscrivent dans des asymétries dont on est obligé de composer avec elles, quoi qu'il en soit. Donc, en fait, comment est-ce que tout ça tient ensemble, hein? Une fois qu'on s'est dit que c'était une relation compliquée, que c'était une relation difficile, que c'était une relation dynamique au sens où elle est sans arrêt réinterrogée, elle est sans arrêt travaillée, ça n'est jamais complètement stabilisé. Et donc souvent, on me demande, mais comment on stabilise tout ça? Est-ce qu'il y a des conventions? Il y a une prescription? Est-ce qu'on met en place une charte? Eh bien, en fait, aucune de ces contractualisations formelles ne garantit une relation partenariale. En fait, c'est un contrat moral qui va tenir les partenaires ensemble, exactement assimilable à ce qu'on entend derrière le contrat didactique, c'est-à-dire un contrat moral qui est tacite, qui est rarement interrogé. Qui est en fait une sorte d'obligation que chacun des partenaires se donne ou ne se donne pas, parce que le partenariat, c'est avant tout une relation volontaire, c'est-à-dire sans l'engagement des acteurs, vous pouvez prescrire tout ce que vous voulez, vous pouvez conventionner tout ce que vous voulez. La convention est nécessaire d'un point de vue réglementaire pour accueillir le travail conjoint, d'un point de vue juridique, d'un point de vue réglementaire. Mais pour ce qui unit les gens, c'est le contrat moral, donc le contrat de collaboration qui va stabiliser les jeux. Les jeux que j'évoquais tout à l'heure de travail de la différence, de travail du conflit, donc cette dynamique permanente de la relation partenariale qui fait que c'est épuisant, c'est le contrat de collaboration qui va la stabiliser. Et donc le contrat de collaboration, je l'ai modélisé derrière trois types de sémiotique, c'est-à-dire le registre de signes que les partenaires s'envoient mutuellement et qui cadrent ce contrat moral. Le premier registre de signes, c'est ce que j'ai appelé la sémiotique instrumentale, c'est-à-dire l'échéancier qui va cadrer l'organisation. Vous avez, au départ, on a bien dit que c'était une organisation du travail, donc une organisation technique d'autorisation, d'échéancier, de projet, tout ce qui est rédigé. La partie sémiotique instrumentale, c'est tout ce qui est rédigé du projet. Le deuxième niveau, de signes que les partenaires s'envoient relèvent de la sémiotique affective, c'est-à-dire de la valeur que chacun va accorder à la relation, du plaisir ou du déplaisir qui va engendrer soit de l'engagement, soit du désengagement, soit de l'implication, soit de l'esquive, parce qu'on a à peu près aussi un droit que nos élèves à esquiver quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, la sémiotique affective va nous aider à esquiver si la situation ne nous convient pas, à esquiver tranquillement. Il peut y avoir une prescription de partenariat si on n'a pas envie, s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas d'implication. De toute façon, la relation partenariale n'existera pas parce qu'on va esquiver au nom de toutes sortes de bonnes raisons. La troisième sémiotique sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps, parce que celle-là, elle est vraiment très importante dans la négociation, c'est ce que j'ai appelé la sémiotique référentielle. C'est-à-dire, finalement, quand on travaille ensemble, à quoi est-ce que l'on réfère pour comprendre cette situation où on est tous ensemble? Par exemple, si on prend, souvent je prends cet exemple de la dyslexie, si on met la dyslexie comme problème commun à résoudre entre des enseignants, des parents, une orthophoniste, etc., vous voyez bien que la notion de dyslexie est comprise forcément différemment du point de vue de chacun, puisque la dyslexie en famille, elle ne pose pas de problème. La dyslexie en famille, ça n'empêche pas de vivre une famille totalement normale et sans aucun problème. Oui, mais du point de vue de l'école, la dyslexie est embarrassante. Mais du point de vue de l'orthophoniste, la dyslexie, c'est carrément un outil, enfin, c'est carrément un objet de travail, une raison de vivre. Donc, vous voyez bien qu'on va aborder ce fameux problème commun à résoudre que j'ai évoqué tout à l'heure, de manière différente les uns et les autres, selon notre position dans le système, selon notre métier, selon des modèles théoriques, mais pas seulement, selon le système de valeurs, selon des croyances ou les théories d'usage. Et donc, on va aborder ce problème commun à résoudre de manière très différente. Et ça va être la source de malentendus ou d'incompréhension entre les partenaires qui finalement peuvent amener à des conflits de personnes qui vont se construire autour de la résistance que l'autre va amener dans la situation. Et cette résistance, il va l'amener juste parce que il ne réfère pas à la même chose. Donc, le premier conseil que je peux vous donner si, dans la construction d'un partenariat, c'est de travailler ensemble le problème commun à résoudre pour que chacun ait une représentation à peu près commune de ce problème commun à résoudre. C'est-à-dire que en mettant sur la table la façon dont chacun va le comprendre, y compris quand la petite voix, souvent celle de la famille, ne comprend pas les choses de la même manière que l'école voudrait qu'elle le comprenne, eh bien, il faut entendre et regarder cette façon de comprendre les choses parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir construire du commun. Donc, la sémiotique référentielle, c'est tout ce à quoi chacun d'entre nous référons pour comprendre la situation. Et mon invitation dans la professionnalisation de ces situations, c'est de vous inviter à mettre sur la table les différences, à mettre sur la table tout ça pour que ce soit vu, reconnu, compris, interprété ensemble, parce que pour le coup, on va construire un sens commun à la situation. Et pour que ça puisse se réaliser, eh bien, il faut travailler le fameux climat de travail. Faisant ces situations partenariales qui, au départ, étaient simplement une ouverture de l'école sur le monde extérieur, sont devenues aujourd'hui de telles nécessités que les métiers ont à travailler ensemble. Et en sociologie des organisations, on sait aujourd'hui que l'expertise dans chacun des métiers aboutit à une sorte de limite, que la plus-value dans le travail, elle est du côté de la mise en commun de ces expertises, d'un travail transversal entre les expertises qui construisent de la complémentarité, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, en fait, on a de plus en plus aujourd'hui de métiers Parce qu'au début, on a juste pensé coordination. Et puis maintenant, on a des métiers, carrément des métiers d'intermétiers, que sont par exemple les métiers de référent, où là, de toute façon, la personne n'est pas seulement chargée, sa mission, ce n'est pas seulement de la coordination, c'est aussi de faire en sorte que les métiers puissent travailler en complémentarité les uns avec les autres. Et donc là, on a une évolution dans le temps, une évolution nette des situations partenariales qui étaient juste des situations d'ouverture de l'école au départ, à aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il fallait professionnaliser ces situations d'interface, on va dire. Et que la coordination de ces interfaces n'était pas suffisante, hein, qu'il y avait vraiment des gestes professionnels et des outils donc, et des formations qui étaient nécessaires à ces situations dites d'intermédiaire. Pour l'instant, je vais essayer d'expliquer ce que sont ces situations d'intermédiaire. Ce n'est pas seulement, j'allais dire, une sorte de renforcement de degré de coopération. C'est vraiment, les métiers qui, peu à peu, interagissent et travaillent ensemble grâce à la négociation. Et donc là, vous voyez que ce pauvre monsieur qui est au milieu du schéma, il est au milieu de choses qui vont dans tous les sens, et la situation d'intermétier, et c'est une situation qui est socialement partagée, mais qui d'un partage qui s'en va dans tous les sens, et donc il va falloir construire une organisation, une sorte de flux plus homogène qui permette de travailler ensemble. Donc on est dans un espace de travail peu matérialisé, parce que si par exemple, si vous venez travailler en tant qu'enseignant, vous avez une salle de classe, vous avez d'abord une école, une salle de classe, vous avez une équipe administrative, une équipe pédagogique, une équipe de surveillance ou de soins, enfin bon, bref. Mais tout ça, c'est matérialisé dans une organisation du bâtiment dans lequel vous allez travailler. La situation d'intermétier, elle n'est pas matérialisée. La personne qui travaille en situation d'intermétier, elle est un peu au milieu de nulle part, sauf peut-être avoir à repérer ce métier de référent. Là, pour le coup, on commence déjà à matérialiser cette situation. Et donc, pour le coup, là, on est dans une situation qui est largement symbolique et qui va être difficile à vivre parce que le périmètre de travail n'est pas franc, n'est pas matérialisé, n'est pas évident. Et donc, du point de vue identitaire, ça peut être compliqué que de travailler en situation d'intermétier. On ne sait plus très bien où on habite. Et donc, on va avoir des territoires d'action qui sont communs, mais avec une diversité d'habitats, c'est-à-dire que chacun va habiter ce territoire commun. Eh ben, de manière différente selon son propre métier, c'est-à-dire que, par exemple, pour illustrer cette proposition, ce propos, quand on a une co-intervention dans la classe entre un maître ordinaire et un maître spécialisé, eh bien, quand on étudie bien l'activité de chacun, on se rend compte que l'activité du maître ordinaire est orientée par des compétences attendues en fin de cycle et donc des programmes, là où l'activité du maître spécialisé est lui orientée par les besoins de certains élèves et les difficultés de certains élèves. Donc on voit bien que dans cet habitat commun qui pourtant est matérialisé là dans la co-intervention clairement commun, il y a deux types d'activités qui vont se déployer dans le même espace. Donc, on est dans un territoire d'action qui est commun, parfois ne se voit pas bien. Là, j'ai pris la co-intervention, ça se voit bien parce que là, ils sont ensemble dans la classe, donc c'est clair. Mais la plupart du temps, le travail commun, il peut être synchrone ou asynchrone et aux trois quarts du temps, complètement symbolique et fait que ce travail en situation d'intermétier ne se repère pas bien, ne se voit pas bien, et du coup, ça déclenche des phénomènes identitaires et de légitimité compliqués. Donc, chacun des métiers a des savoirs propres et qui construisent des légitimités dans l'interaction qui vont faire que ça va être compliqué de trouver le bon endroit où s'arrêter et où commencer d'un côté et de l'autre dans les deux métiers. Quand les métiers se rencontrent, des différences qui vont engendrer des tensions entre les métiers. C'est-à-dire que chacun des métiers possède ses propres dilemmes, ses propres... par exemple, est-ce que j'enseigne ou est-ce que j'éduque? Voilà un dilemme de métier d'enseignant. Bon, chaque métier a ses propres dilemmes. Mais quand on rencontre la différence de l'autre, dans la rencontre du métier de l'autre, on va créer des tensions entre les deux métiers, c'est-à-dire que les dilemmes de l'un ne sont pas les dilemmes de l'autre. Je prends un exemple, si je reviens à enseigner et éduquer, si on met un enseignant et un personnel du médico-social, lui, il a entre les mains éduquer, transmettre. Nous, on a enseigné, éduqué, mais vous voyez, il y a bien des communautés, mais en même temps, il y a des différences. Donc là, on va avoir des tensions qui vont s'instaurer entre les métiers et qui vont compliquer donc la fameuse négociation sur laquelle je vais revenir. Vous avez aussi des différences de territoire de décision, c'est-à-dire que fréquemment, l'enseignant, il s'autorise à prendre des décisions dans le territoire de sa classe. Quand on déborde de la classe, et que déjà on est dans l'établissement. Si cette personne est par exemple impliquée dans les commissions permanentes ou les AG, etc., il va s'autoriser à prendre des décisions au niveau de l'établissement. Mais si cette personne n'est que dans sa classe, déjà l'établissement, ça va être un territoire de décision qui va avoir du mal à s'accorder. Et quand en plus le territoire il est à l'extérieur de l'école, ça va être encore plus compliqué. Donc là, on a des phénomènes identitaires et des phénomènes de légitimité qui viennent interférer tous les obstacles que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc ces territoires de décision, ils vont se construire peu à peu entre les acteurs, à savoir est-ce que les partenaires vont pouvoir prendre des décisions hors de la classe, seulement dans le groupe, dans l'établissement, dans la circonscription, dans le département ou dans la région ou dans l'académie. Donc vous voyez là, les territoires de décision sont à la fois des territoires administratifs, mais sont aussi des territoires identitaires. Et donc là, il y a des fois des enseignants ou des personnels qui ne s'autorisent pas à contribuer à la décision parce qu'ils réfèrent leur légitimité à un territoire particulier. Là, tous ces éléments-là interviennent dans les situations d'intermétier, de même que les temporalités. C'est-à-dire, alors je souligne bien que quand je parle de temporalité, je parle de rapport au temps. C'est-à-dire que nous avons, selon notre métier, des rapports au temps qui sont très différents. Je veux dire, un rapport au temps d'un soignant ou le rapport au temps d'un enseignant ou le rapport au temps d'un parent qui veut que la situation s'arrange dès demain n'est pas la même. Et donc, on a des temporalités différentes. Et on a en même temps, qui vient s'ajouter à ça, la pression du temps social et de ses agendas, c'est-à-dire le temps de l'administration et de ses rouages et de ses prises de décision par rapport au temps de la problématique qui est en jeu n'est forcément pas le même. Et le fait des procédures administratives qui seraient nécessaires ne sont pas forcément calées sur la compréhension que chacun des partenaires a de la situation. Donc, vous voyez, à la fois, la rencontre des métiers va soulever des tensions de territoire de décision où chacun va pas forcément se sentir très légitime à prendre des décisions, mais le rapport au temps va aussi embarrasser les décisions et les négociations entre les métiers. La négociation va aider à transformer les tensions en ce qu'on appelle Dilemme d'intermétier. Alors, on a vu tout à l'heure que chacun des métiers avait ses propres dilemmes, mais la gestion des tensions, donc le travail de négociation, va engendrer des dilemmes communs de l'intermétier. Alors, par exemple, un des dilemmes qu'on rencontre le plus fréquemment dans ces dilemmes d'intermétier, c'est bon, au bout d'un moment, ça va, je décide ou je continue à négocier. Donc, vous voyez, là, on a un dilemme d'intermétier. Au bout d'un moment, la pression sociale du temps va nous amener soit à booster la décision en disant, bon, voilà, maintenant, il faut décider parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc là, on va forcer la négociation vers une décision, ou bien on continue à négocier pour construire un sens commun, pour construire un jeu commun. Deuxième dilemme de l'intermétier, je travaille dans l'implicite ou je travaille dans l'explicite? Il y a certaines situations qui se règlent de manière implicite et on ne se dit pas les choses, elles se sentent, on les perçoit, c'est à demi-mot, etc. Mais en fait, l'implicite ouvre la porte à des malentendus, parce que comme on ne le parle pas, ça ouvre la porte à des malentendus. Donc, il y a des moments où il va falloir travailler dans l'explicite. Donc, décider ou négocier, l'implicite ou l'explicite, le formel ou l'informel. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'arrête seulement au Gevasco pour discuter les difficultés de l'enfant ou est-ce que de manière informelle, on essaye de comprendre un petit peu à la sortie de l'école, sur le parking, à comprendre un peu où sont les difficultés dans l'enfant. Autre exemple de dilemme d'intermétier. Est-ce qu'on travaille en rupture ou est-ce qu'on travaille en continuité? Alors, souvent, quand l'idée première qui apparaît quand deux métiers se rencontrent autour d'un apprentissage pour les élèves, eh bien, ça va être de penser continuité. C'est-à-dire, il faut que l'autre prenne ce que j'ai fait dans les logiques dans lesquelles je l'ai fait, et qu'il y ait une continuité de pratique, une continuité de sens a priori. Sauf que parfois, la rupture est archi nécessaire pour provoquer des effets. Et donc là, pour le coup, engager les choses sous un autre angle, avec un autre vocabulaire, avec d'autres techniques, ça peut être tout à fait intéressant pour booster le processus d'apprentissage. Et donc là, pour le coup, on a un autre dilemme qui est rupture et continuité. Donc voilà, si je reprends, on a des dilemmes de métier qui, en se rencontrant, créent des tensions. Les tensions d'intermétier, quand on les travaille, deviennent des situations, des dilemmes d'intermétier. C'est-à-dire que pour le coup, on va devoir être partagé entre une série de choix. Et donc là, c'est là que la négociation et le travail commun va prendre sens. Je voulais juste signifier le fait que j'ai choisi cette définition de la négociation qui vient d'Arduino, tout simplement parce qu'elle me semblait proche de la question de la professionnalisation des situations d'intermétier. C'est pas une définition scientifique à laquelle j'adhère dans mes travaux, c'est juste parce que elle nous aide à passer à la dimension professionnelle. Donc, Arduino nous dit, une négociation, c'est une démarche consentie, organisée, concertée. C'est trois mots clés, à mon avis. C'est-à-dire consentie, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, on n'oblige pas les gens à négocier quand ils n'ont pas envie de négocier. Organisée, eh bien oui, on l'a vu, ne serait-ce que le tour de table tout à l'heure et on va le revoir après, c'est une organisation à la fois matérielle, sociale, affective et concertée parce que en fait c'est quelque chose qui est construit, qui est co-construit et pas individuellement pensé. Donc voilà, ces trois termes-là me semblaient importants dans la professionnalisation du geste de métier d'intermétier. dans une économie optimale des convergences et des divergences. Parce qu'en fait, on ne peut pas écarter l'ergonomie derrière de tout ça. C'est-à-dire que si les choses sont trop compliquées, trop lourdes, ben, ça ne marchera pas. Donc, il y a une ergonomie, donc une économie optimale des convergences et des divergences. C'est-à-dire que oui, on va travailler sur la différence, mais il ne faut pas que la différence soit coûteuse au point de nous empêcher de travailler. Donc là, ce point me semblait important. Et le dernier point qui me semblait important, c'était l'invention commune par le conflit d'adversaires partenaires qui renvoie à l'étymologie du mot partenariat que j'ai présenté au tout début, les adversaires partenaires. Et une invention commune, c'est-à-dire que, eh ben, on va créer du nouveau. Et c'est pour ça que je disais que c'était important la différence, parce que c'est grâce à la différence qu'on crée du nouveau. C'est pas en étant comment dire, en groupe affinitaire, homogène, issu du même monde, que les choses nouvelles se créent. Elles se créent autour du traitement de la différence. Donc voilà. Et le dernier point que sur cette diapo je voulais soulever, c'était là aussi l'étymologie du mot négociation. C'est-à-dire que le mot négociation renvoie à la fois au commerce, le négoce. Et souvent, c'est traduit par le rapport gagnant-gagnant. En ce moment, on a aussi perdant-perdant, c'est nouveau. Voilà, il y a des jeux de négociation d'un point de vue commercial, hein, cette fois-ci. C'est-à-dire, bah, je te cède ça parce que bon, et puis tu me céderas le prochain coup. Donc, vous voyez, il y a effectivement une négociation commerciale derrière la négociation dans les situations d'intermédiaire. Mais surtout, l'autre aspect du mot négociation me semblait intéressant à soulever parce que souvent, c'est la question commerciale qui prend le pas dans nos sociétés occidentales. J'avais envie de soulever la question de l'ajustement à l'autre. C'est-à-dire, quand on négocie un virage, on ajuste la courbe de la voiture et sa vitesse à la courbe de la route. Et donc, c'est effectivement… On ne peut pas écarter la question commerciale du négoce. Dans le partenariat, il y a des vrais jeux commerciaux. Mais ce qui est intéressant dans la négociation partenariale, c'est la construction d'un sens commun. J'en ai beaucoup parlé, hein, la construction d'un sens commun et qui se développe dans l'ajustement à l'autre, hein, et donc dans l'idée de négocier un virage ensemble. Tout à l'heure, j'ai parlé… de mondes qui se rencontraient. Et chacun des mondes a ses objets, c'est-à-dire ses pratiques, ses supports, ses outils, ses idées, ses valeurs. Et en fait, on échange à force de travailler ensemble et de négocier les situations et de co-construire les situations ensemble, on échange ce qu'on appelle, ce que Starr et Griesmer appellent des objets frontières. Alors, des objets frontières, ce n'est pas forcément des objets matériels, ça peut être des valeurs, des idées. Ce sont des objets frontières qui vont aider à construire du commun. Le but du travail en intermétier étant d'ouvrir des possibles, de rendre les choses possibles, de faire tout ce qui est possible le mieux possible, sachant que le mot possible renvoie à l'étymologie de pouvoir. Donc en fait, travailler ensemble, c'est amener à renforcer le pouvoir d'action de l'autre. Vous savez, au début, je vous disais, le partenariat est inscrit dans l'action. Et donc, tout le travail de métier, d'intermétier, c'est d'apporter, de donner du pouvoir d'action. Passer cette fois-ci à la dimension plus expérientielle et opérationnelle. Par exemple, dépayser la réunion a à peu près le même effet que les triangulations que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut penser où sont les intérêts, les habitudes, les routines des gens et qu'est-ce qui va bloquer dans la réunion, peut-être pour débloquer les choses en dépaysant la réunion. Peut-être aussi prévoir un temps plus long de discussion pour travailler cette sémantique, etc. Donc, donner un temps plus long en faisant moins de points à l'ordre du jour. Voilà des petits trucs qui peuvent vous aider. Aussi, faire attention à la compatibilité des horaires, c'est-à-dire à les rendre confortables pour les acteurs dominés. Je pense par exemple aux familles. Donner un rendez-vous aux familles sur un créneau horaire scolaire, hein, c'est les obliger à poser des RTT ou c'est les obliger à faire garder les enfants ou c'est les obliger. Et donc là, donner un horaire compatible avec l'activité des acteurs, entre guillemets, dominés, c'est important pour pouvoir leur redonner la parole. Choisir un lieu rassurant et confortable, organiser un climat convivial, j'y reviens pas, on l'a déjà dit, organiser l'espace de réunion pour que les échanges puissent prendre place. Ça me renvoie à une observation qu'une étudiante de master avait fait. En fait, une ESS qui s'était déroulée dans une école maternelle sur les toutes petites chaises de la petite section, et l'organisation était des tables était faite de sorte que finalement l'enseignante référente ne voyait pas la famille d'accueil de l'enfant qui était à l'autre bout, complètement coincée derrière le médico-social. Enfin bref, des choses que auxquels on ne fait pas forcément attention, mais c'est important pour le climat de travail de l'organiser en amont. Alors, vous savez, quand je disais les métiers, ils se rencontrent et ils n'ont pas les mêmes règles, ils n'ont pas les mêmes codes, etc. Et donc, ça peut être intéressant pour les personnes invitées, comme les familles, par exemple, de donner accès aux codes ou aux règles de la situation de négociation pour que chacun puisse prendre position de là où il est, sans inconfort, sans difficulté majeure à surpasser. Et donc, instruire le travail, c'est-à-dire donner les informations liées aux décisions qui vont être prises en réunion avant la réunion. Donc, c'est ce qu'on appelle instruire le travail. Ça veut dire donner les éléments à chacun des partenaires vraiment pour qu'ils soient à égalité avec les autres partenaires pour prendre ces décisions. Parce que comme on ne connaît pas tous les éléments, tout ce qui cadre d'un point de vue réglementaire ou d'autres points de vue, eh bien, on ne peut pas prendre les décisions en situation, en réunion. Donc, en réunion, on se donne les informations et puis la décision, elle est rejetée après la réunion, pour ainsi dire, ou à la fin de la réunion, où elle se prend malgré les gens. C'est aussi ce qui arrive. Donc, donner accès à tous les possibles par rapport à la décision, et en réassurant, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, les acteurs dominés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui paraissent pas, mais mis bout à bout les uns avec les autres, peuvent aider.